Les grands entretiens de Storia Voce.
On retrouve Omblin de Ternay.
Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Nous sommes en 719. À l'époque, Séma, roi des Sarrasins, 9 ans après l'entrée de ceux-ci en Espagne, assiège et prend Narbonne. Il fait mettre à mort les hommes de cette cité et amène en Espagne les femmes et les enfants comme captifs. Tel est le récit que nous donne la chronique de Moissac, afin de décrire la progression arabe dans le sud du royaume des Francs, que nous allons évoquer avec Philippe Sénac. Philippe Sénac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne, également membre de la Casa Velázquez, et vous venez de publier L'autre bataille de Poitiers, quand la Narbonnaise était arabe, aux éditions Armand Collin. Alors vous faites la comparaison dans le titre de votre ouvrage avec la bataille de Poitiers. Il y a donc eu une autre bataille de Poitiers ?
Tout à fait. D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Disons que cet ouvrage, celui que j'ai publié donc l'an dernier, est un ouvrage qui repose sur deux objectifs différents. Mais qui sont quand même étroitement liés. Le premier, c'est qu'il s'agissait pour moi de revisiter cette bataille de Poitiers en 732 dont on a énormément parlé et qui envahit les manuels scolaires de la Troisième République, qui envahit également parfois l'actualité, qui fait l'objet de récupérations, on la trouve sur les réseaux sociaux. Et c'est une bataille que je voulais, à la suite des travaux de certains collègues, je pense à Christophe Naudin et William Blanc, qui s'étaient intéressés à la bataille elle-même, je voulais changer de perspective et voir dans quelle mesure, en se situant dans le cadre, dans la perspective des sources arabes occidentales, c'est-à-dire de l'Occident musulman et non pas de l'Occident chrétien, voir ce que l'on pouvait en dire et savoir s'il s'agissait simplement d'une escarmouche, comme l'ont dit certains, ou bien si elle revêtait une importance beaucoup plus grande dans ce que certains auteurs, certains journalistes, certains hommes politiques même appellent le roman national. Ça, c'est le premier objectif. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que l'écho dont avait bénéficié cette bataille tout au long des siècles, en particulier au XIXe et au XXe siècle, cet écho cachait en fait une autre réalité, comme vous dites, une autre bataille, une autre histoire plus exactement, et c'est celle-ci que je voulais reprendre, à savoir la présence arabo-musulmane dans le sud de la Gaule, dans ces régions qu'on appelle la Narbonnaise.
Finalement, qu'est-ce qui justifie qu'on compare la bataille de Poitiers à celle de Narbonne, sachant que la Narbonnaise était occupée par les Arabes, tandis qu'à Poitiers, les Arabes sont repoussés.
Tout à fait. Ce n'est pas simplement cette histoire. Il y a eu d'autres batailles extrêmement importantes qui se sont déroulées dans ce secteur-là et qui n'ont pas bénéficié du même écho. Il y a eu d'abord la victoire à Toulouse du duc Eudes d'Aquitaine sur une armée musulmane en 721, et puis une date tout aussi importante d'ailleurs que la bataille de Poitiers, et puis il y a eu également la bataille de Sigean, celle en 737, où Charles Martel s'est illustré, après avoir échoué, pour reprendre Narbonne, s'était illustré face à des renforts musulmans qui étaient venus d'Espagne. Donc il y a deux batailles importantes, et je crois qu'on ne peut pas les séparer les unes des autres. J'en prends un exemple dans la vie de Charlemagne, par exemple d'Eguinart, la Vita Caroli. Lorsque Eguinart tente, un demi-siècle plus tard même, de justifier le coup d'État, près d'un siècle, de justifier le coup d'État de Charles Martel, de Pépin le Bref, pardon, il utilise dans son récit les deux dates de Poitiers et la bataille de Sigean, c'est-à-dire 732 et 737, en soulignant que ce sont ces deux dates-là qui ont conduit à rapprocher les Francs de Rome, c'est-à-dire de la papauté.
Et est-ce qu'on peut dire que finalement le fait qu'on retienne la figure de Charles Martel plus que celle de Eudes d'Aquitaine s'inscrit dans la construction justement du pouvoir carolingien?
Oui, c'est une histoire également qui s'écrit à Paris. Nous sommes dans le nord de la France et par rapport à un midi qui parfois était un petit peu turbulent. Donc il est clair que la personnalité de Charles Martel a pris le devant sur Eudes d'Aquitaine, d'autant que Eudes d'Aquitaine par la suite a été vaincu par les armées musulmanes qui avaient envahi les sud de la Gaule et qui pour certains auraient même fait appel à Charles Martel pour vaincre les musulmans. C'était juste avant la bataille de Poitiers, c'est-à-dire en 732.
Alors, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place tient la Narbonnaise au sein de la Gaule au 8e siècle ?
Alors, la Narbonnaise relève non pas du Regnum Francorum, c'est-à-dire du Royaume Franc, elle relève de la monarchie de Tolède, c'est-à-dire de la monarchie wisigothique de Tolède. Elle constitue, à cette époque-là, au moment où les événements que je décris vont survenir, elle constitue l'une des six provinces ecclésiastiques, des six grandes provinces que l'on trouve dans la péninsule ibérique à cette date-là. Et depuis quelques années, je me place au début du 8e siècle, elle entretient des liens beaucoup plus lâches avec le pouvoir de Tolède. En particulier à la suite d'un autre coup d'État, à savoir que lorsque le roi Vitiza meurt, nous sommes en 710, ce n'est pas son successeur, on l'a considéré comme son fils, c'est-à-dire Aquila, deuxième du nom, Aquila II qui aurait dû lui succéder. C'est une sorte de coup d'État qui survient à ce moment-là, et c'est le duc de Bétique, Roderic, qui lui va s'emparer du pouvoir. Ce qui fait qu'Aquila est plutôt installé, s'établit plutôt dans ces régions qui sont dans le nord de la péninsule, à savoir la Tarraconaise, hein, la région de Tarragone, et la Narbonnaise. On sait qu'il s'est établi là, et qu'ensuite, selon une chronique postérieure du début du 9e siècle, pendant quelques années, lui aurait succédé un personnage qui est tout à fait énigmatique, hein, sur lequel on a très très peu d'informations, qui s'appelle Ardo. Donc c'est une province et elle échappe encore à ce moment-là à la domination franque sur le littoral méditerranéen. Mais elle reste quand même par ses traditions, par sa culture extrêmement liée à la monarchie de Tolède, à la monarchie wisigothique. Et ce sont donc des populations goths que les musulmans, les troupes arabo-musulmanes vont attaquer à partir, selon toute vraisemblance, de 718-719.
Et qu'est-ce qui fait que cette province, au moment où les Arabes arrivent pour mener des raids, est particulièrement vulnérable ?
Alors, il y a plusieurs motifs. D'abord, son éloignement de Tolède, ce qui fait que certains ont penché pour une idée de prétention autonomiste par rapport au reste de la monarchie de Tolède. C'est surtout le fait que depuis près d'une, on va dire, une quarantaine d'années, elle est davantage affaiblie par plusieurs facteurs. D'abord le fait que dans les années 672-673 s'est produit et s'est développé beaucoup dans cette région-là, en Narbonnaise, s'est produit une révolte qu'on appelle la révolte du duc Paul et qui a tenté d'obtenir non seulement son autonomie, ce duc Paul, mais qui a même prétendu à devenir rex, c'est-à-dire à devenir souverain avec l'appui d'une partie de l'aristocratie de Tarraconaise. Et le roi de Tolède a dû intervenir brutalement. Il a rasié la région, la plupart des cités, Narbonne, Nîmes, d'autres forteresses du massif des Albères, à la limite de la France et de l'Espagne à l'heure actuelle. Et donc cette Narbonnaise a vraisemblablement souffert considérablement de la répression qui s'était établie à ce moment-là sur elle. Il y a un autre motif, Narbonne et la Narbonnaise, qui était quand même une province extrêmement riche et une cité florissante, hein, elle est bien décrite par tous les auteurs romains, a probablement souffert de ce ralentissement des activités que beaucoup d'historiens placent à la suite de la thèse d'Henri Pirenne, à savoir une sorte de fermeture de la Méditerranée, étant très ouverte sur l'Orient, étant très ouverte sur le bassin occidental de la Méditerranée, Narbonne a dû commencer à fléchir, à perdre de l'importance. Donc, sans en faire une cité qui était menacée, qui était prête à tomber, on peut considérer quand même que cette Narbonnaise avait moins les moyens de se défendre que d'autres régions d'Espagne qui, il faut bien le reconnaître, ne l'ont pas tellement fait non plus.
Oui, et à partir de là, finalement, c'est les richesses peut-être de Narbonne qui attirent les
oui, c'est surtout une série d'attaques, de conquêtes, hein, pour être plus juste, qui s'inscrivent dans un processus beaucoup plus vaste qui est quand même ce grand mouvement d'expansion territoriale qui s'est développé à la suite, dans les années qui ont suivi la mort du prophète Mohammed, hein, en 632, et qui ont soumis donc la plus grande partie du Proche-Orient, de l'Égypte, plus difficilement le Maghreb, puis l'Espagne à partir de 711. Donc il faut le percevoir, cet ensemble de conquêtes, il faut le percevoir comme le résultat, la poursuite presque logique de toute une série d'offensives, de toute une série de conquêtes qui se sont déroulées depuis l'Orient. Au point que, selon certains chroniqueurs arabes, l'un des conquérants de ces régions, même si vraisemblablement Moussa ben Nusayr n'a jamais mis les pieds en Narbonnaise, certains auteurs arabes postérieurs rapportent qu'il avait prévu de poursuivre les conquêtes le long du littoral méditerranéen pour ouvrir une voie et regagner une voie de terre l'Orient, c'est-à-dire Damas à cette époque-là, la capitale du califat.
Bon, on voit que effectivement toutes les hypothèses sont ouvertes, mais alors concernant Narbonne, à quel moment et par quelle voie les musulmans débutent-ils réellement l'offensive ?
Alors, c'est une histoire qui est quand même bien retracée dans les sources arabes, et la chance que nous avons, c'est que les sources arabes et les sources latines, vous en avez cité une tout à l'heure, la chronique de Moissac, elles coïncident parfaitement. Les sources sont peu nombreuses, mais les informations dont nous disposons sur le plan des sources écrites, des éléments textuels, coïncident parfaitement. Selon toute vraisemblance, c'est un émir d'Al-Andalus qui s'appelle Al-Hur et que l'on voit dans les sources latines apparaître sous le nom d'Alaor, hein, comme dans la chronique de Moissac par exemple, en 718, qui aurait commencé à menacer la Narbonnaise sans s'en emparer toutefois. Et c'est son successeur, un autre émir, vous avez commencé votre intervention en disant Sama, Zama, nous on l'appelle en arabe Al-Samh, c'est ce gouverneur-là d'Al-Andalus qui va franchir les Pyrénées, qui va s'emparer de Narbonne en 719 en infligeant aux populations le sort que vous avez décrit tout à l'heure. À partir de là, cette ville étant devenue Arboun dans les sources arabes, à partir de là, Al-Sam va mener des offensives, on en a cité une il y a quelques instants, en direction d'abord de Toulouse, en 721. Et c'est là qu'il va rencontrer une résistance farouche, et le duc Eudes d'Aquitaine va le mettre en déroute, au point que cet homme, le gouverneur, va périr pendant les combats. Et c'est intéressant parce que c'est le premier revers des troupes arabo-musulmanes en Occident qui coïncide de l'autre côté de la Méditerranée avec la fin du siège, l'échec devant Byzance, devant Constantinople. Nous sommes dans les années 717-718, là nous sommes en 721. En Espagne se produit également, d'après certaines sources, un revers qui est bien connu des chercheurs espagnols qui s'appelle la bataille de Covadonga, nous sommes en 722, donc vous voyez, dans ce petit laps de temps se produit un ralentissement assez notable des conquêtes arabo-musulmanes. Elles ne s'achèvent pas pour autant, loin de là. Et ce que l'épisode de Poitiers, là encore, a masqué, a minimisé, a même caché, c'est la grande expédition, la plus grande vraisemblablement qui a été menée en Gaule, c'est l'expédition qui est menée par l'émir Ambassa. Nous sommes en 725, qui depuis Narbonne, vraisemblablement, va d'abord orienter ses offensives en direction de l'Aquitaine, c'est-à-dire en direction de l'ouest, pour conquérir la ville de Carcassonne, qui devient à partir de ce moment-là, dans les sources arabes, Carcachouna. Et c'est un historien du XIIIe siècle, un très grand historien qui s'appelle Ibn al-Athir, qui nous en avons la vertu, une grande chance qui nous a laissé un bref extrait de la capitulation de Carcassonne en 725. Et de là, changement d'orientation, c'est à nouveau le long de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône que Ambassa va conduire ses troupes pour aller très loin. Nîmes tombe et au cours de cette année 725, c'est Avignon, puis c'est Lyon et selon certaines traditions bien établies, parfois confortées par des chroniques latines d'ailleurs sur ce point, c'est la ville d'Autun qui est menacée et les troupes arabo-musulmanes seraient parvenues jusqu'à Sens, dans la ville de Sens, donc très haut, beaucoup plus haut que la ville de Poitiers si on regarde une carte de la Gaule de cette époque-là. L'affaire s'achève en 726, il meurt au retour de l'expédition, mais c'est sans doute cette très vaste, très grande expédition, et cette série de succès avec un butin considérable qui va faire comprendre aux Francs et en particulier au maire du Parlay, à Charles Martel, que le danger est considérable et c'est dans le prolongement donc de ces attaques qu'il va d'abord vaincre en 732 l'émir Abdelrahman près de Poitiers et surtout en 737 mener une très grande offensive avec son demi-frère Childebrandt en direction de la Méditerranée pour tenter de reprendre Narbonne, c'est-à-dire de mettre fin à cette partie de la domination arabo-musulmane.
Et est-ce que à cette époque-là, Narbonne est vue un peu comme une tête de pont de la conquête arabe ?
Oui, ça devient la capitale de ce qu'on appelle une wilaya, comme toutes les autres cités que l'on trouve en Al-Andalus, en Espagne, à cette époque-là, qui est donc gouvernée par un wali, par quelqu'un qui dépend de l'émir de Cordoue, et qui est donc un personnage d'une assez grande importance. J'en ai dressé la liste, hein, tant que les sources nous le permettent, les sources arabes. Il faut bien imaginer qu'il s'agit de membres de grands lignages arabes, dont certains viennent d'Orient à cette époque-là.
Et alors, donc, dans cette organisation administrative, comment sont traitées les populations locales qui étaient déjà sur place ?
Alors, dans un premier temps, je reprends le cas de Narbonne, en 719, dans un premier temps, la conquête est brutale, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport de force, les populations ont résisté et elles sont soumises donc à, bon, à une pression considérable. Dans un deuxième temps, comme nous sommes en terre dorénavant arabe, les populations, on va les appeler indigènes, locales, visigothiques, ces populations sont soumises à un statut très particulier qui est celui des gens du livre, ce que l'on appelle Al-Kitab, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, ceux qui ne sont pas musulmans, les non-musulmans, et ceux-ci vont bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Dans le cas de la capitulation de Carcassonne, on en a un éclairage assez net, on leur interdit de nouer des relations avec l'ennemi, on leur demande de libérer les prisonniers, on s'empare d'une partie de leurs biens, mais ils sont soumis à un impôt, c'est le cas dans tout le monde arabo-musulman de cette époque-là, pour les non-musulmans, cet impôt c'est la jizya, c'est l'impôt de capitation qui est versé une fois par an. Et c'est un impôt qui est aussi une marque de différence par rapport aux musulmans. Il permet de séparer ceux qui sont affectés par la jizya, donc les non-musulmans, des musulmans eux-mêmes qui ne relèvent pas des mêmes redevances, que ce soit la zakat ou plus tard du kharaj, de l'impôt foncier. Donc il n'y a pas eu, passé les années 719-720, il n'y a pas eu de tension particulière au point que quelques années plus tard, nous sommes dans les années 752-754, hein, donc plusieurs décennies après, on a même vu des populations de Narbonne renverser certains dignitaires qui étaient demeurés sur place, sa femme ensuite, il s'agit d'Ansemont et de sa femme Kaouna. On les assassine parce qu'on les accuse de traiter avec les Francs, comme si derrière le clivage islamo-chrétien que certains veulent voir dans ces événements-là se dessinait aussi un clivage entre les populations du sud, visigothiques, et les populations venues du nord qui étaient considérées peut-être même comme des envahisseurs. On leur demande, c'est l'obligation par la suite par rapport à Pépin le Bref, lorsqu'il va mener son offensive en 759, hein, et s'emparer de Narbonne, on demande à ces populations franques venues du Nord de respecter leurs traditions, de respecter leurs droits, leurs coutumes, et en particulier la Lex Visigothorum, c'est-à-dire ce qui différencie clairement les populations de l'ancienne Espagne visigothique du monde franc.
Donc vous nous avez parlé d'impôts notamment. Alors sur quelles sources concrètement on peut s'appuyer pour comprendre cette organisation ?
Alors, nous avons d'abord, je viens de vous le dire, quelques textes qui ne diffèrent pas, donc d'après les informations qu'ils fournissent, de ce qui se produit dans le reste du monde arabo-musulman. Mais nous avons eu aussi la chance, voici maintenant plusieurs années, de découvrir un certain nombre de vestiges matériels qui révèlent très clairement, ce fut le cas en particulier à côté de Perpignan, sur l'ancien oppidum romain de Rusino, à Château-Roussillon, de découvrir une très grande quantité, plus d'une cinquantaine de plombs, sur lesquels figurent des légendes qui permettent de voir dans quelle mesure est-ce que les populations soumises doivent se plier aux obligations. Ce qui apparaît le plus souvent, c'est le butin. On dit le ranim, c'est-à-dire que les populations qui ont participé, les populations arabes, musulmanes, qui ont participé au combat, à la prise de la ville, dans un premier temps reçoivent une partie du butin. Les 4/5 de ce butin vont aux combattants présents sur place, et 1/5, ce qu'on appelle le roum, c'est réservé directement à l'État, c'est-à-dire au pouvoir. C'est une vieille tradition qui existait, hein, ce partage en 5 éléments, en 5 parties, qui existait même avant l'islam, qu'on retrouve pendant la période de la Jahiliya, c'est-à-dire au Proche-Orient, bien avant le prophète. Donc, des redevances, la jizya, dans un premier temps, je vous l'ai dit, du butin. Et puis, il semblerait que ce soit les évêques, que ce soit quelques dignitaires qui aient géré les communautés chrétiennes sous domination musulmane. Ce qui fait que certains auteurs, hein, je pense à Albert Dupont par exemple, en 1942, considérait lui que tous les évêchés, toute vie chrétienne avait disparu, ce qui a nuancé Elisabeth Magnus-Nortier dans les années 1975, quelques années plus tard, hein, pour montrer qu'en fait, les structures ecclésiastiques ont demeuré, le droit de pratiquer sa religion est reconnu. Le changement a été que très superficiel, si ce n'est qu'il s'agit bien de populations soumises. Et encore une fois, je crois qu'il faut limiter cette violence à ce qui s'est produit lors de la conquête, lors des premiers temps. Et encore une fois, le texte que j'évoquais sur Carcassonne montre bien qu'à partir de cette date, il n'y a pas eu de révolte particulière des populations visigothiques.
Oui, donc en fait, on continue à avoir des sources de la pratique chrétienne dans la ville de Narbonne.
Le problème des sources chrétiennes, c'est qu'elles ont toujours tendance à noircir la situation, bien évidemment pour des raisons d'ordre idéologique, comprendrez bien. Les sources arabes également sont envahies parfois par cette idée de djihad, de conquête violente. Dans les deux cas, il faut les prendre avec prudence, nuancer. Mais l'intérêt, est-ce que lorsqu'elles correspondent à une seule et même période, eh bien on se rend compte qu'elles coïncident pour montrer qu'en fait, pendant près d'un demi-siècle, hein, j'insiste sur ce point, c'est beaucoup plus important que la bataille de Poitiers qui s'est déroulée une journée au mois d'octobre de l'année 732, pendant près d'un demi-siècle, eh bien, ces régions-là, soumises à l'islam, soumises à l'émir de Cordoue, c'est-à-dire à l'émir d'Al-Andalus, ont perduré, et jusqu'à la fin des années 760, 770, peut-être même un petit peu après pour certains secteurs qui sont placés plus au sud.
Alors à partir de quand est-ce qu'on peut dire que les Francs reprennent réellement le dessus ?
Alors à partir de, on va appeler ça une grande victoire, celle de Charles Martel, je l'ai dit il y a quelques instants, en 737, hein, la bataille de la Berre près de Sigean. Charles Martel ne parvient pas à s'emparer de Narbonne, mais au retour, hein, il pille la région à son tour, et surtout, plusieurs historiens espagnols l'avaient bien montré, il va décider de rasier en particulier les cités épiscopales, parce qu'il avait considéré que les évêques avaient cohabité, mais surtout s'étaient entendus avec l'occupant en quelque sorte musulman, et c'est pour les punir de cette cette, c'est pas une cohabitation, de cette collaboration qui aurait ravagé plusieurs cités, Agde, Maguelone, Nîmes. Et par la suite, ben, il faut attendre près d'une vingtaine d'années, davantage même, pour que 759, Pépin le Bref, ou en tout cas les troupes de Pépin le Bref, dans cette grande poussée en direction du sud pour contrecarrer l'influence de l'Aquitaine qui elle-même tentait de se rapprocher de la Méditerranée, mais surtout pour rejeter définitivement cette présence arabo-musulmane, c'est en 759 que, selon les sources arabes comme les sources latines surtout, Pépin parvient à s'emparer de Narbonne. Dans quelles conditions? Ça explique peut-être le peu d'écho qu'a bénéficié cet événement en 759. Pour les sources qui sont favorables à la dynastie carolingienne, il vient d'être sacré en 751 et 754, il vient d'être sacré roi des Francs. Certaines disent que Pépin le Bref, je pense aux annales de Metz par exemple, Pépin le Bref aurait, à l'issue de 3 batailles, serait parvenu à s'emparer de la ville. Alors que si on prend une source plus méridionale, et sans doute beaucoup plus juste, hein, vous l'avez cité, je l'ai évoqué moi-même, la chronique de Moissac, hein, un grand monument, vraiment une source d'une importance majeure, ce sont les populations de la ville de Narbonne qui, sans doute en accord avec les Francs, auraient décidé, sous réserve qu'ils respectent leur tradition que j'évoquais il y a quelques instants, ils auraient chassé les populations musulmanes de la ville de Narbonne. Et c'est vraisemblablement dans ces conditions que le départ des musulmans s'est opéré. Ce qui explique, encore une fois, j'insiste, à le fait qu'on ne peut pas célébrer cet événement de 759 comme un autre événement aussi important que la bataille de Poitiers, parce qu'il n'y a pas eu de bataille, vraisemblablement. Et ça, il y a un très bel illustrateur du XIXe siècle, Émile Bayard, nous sommes en 1880, qui l'avait représenté dans un de ses dessins, où l'on voit les musulmans quittant la ville de Narbonne sous la surveillance des guerriers francs, mais dans un calme complet.
Donc on entend que finalement il n'y a pas d'affrontement tel qu'on pourrait l'imaginer. Et quand est-ce qu'on pourrait considérer que Narbonne est libérée finalement de la présence musulmane, et totalement à l'abri de la présence musulmane?
Alors, je vais répondre à votre question, mais ce que vous venez de dire est important. La première partie de votre phrase, c'est pas un choc islam-chrétienté. Et je crois qu'il faut insister beaucoup sur ce point. Certains ont tenté de le rapprocher de ce choc des civilisations qu'évoquait un professeur américain à la fin du XXe siècle, Samuel Huntington. Et souvent, on l'a représenté comme un choc entre l'Occident chrétien et l'islam. C'est pas du tout le cas, pour une simple raison, c'est que les uns comme les autres ne disposent que d'une connaissance extrêmement réduite de l'adversaire. On ne peut pas utiliser à cette époque-là le terme djihad, guerre sainte comme on le traduit peut-être abusivement. En Occident aujourd'hui, en faisant allusion à tout ce qui s'est passé dans l'actualité depuis quelques décennies, et même du côté, ce sont des auteurs arabes beaucoup plus tardifs qui plaquent ce terme sur le récit des combats ou des conquêtes. Et du côté chrétien, il faut bien le reconnaître, l'extrême majorité du monde ecclésiastique ignore tout de cette nouvelle religion et des combattants qui viennent d'envahir l'Espagne et ensuite le sud de la Gaule. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commence à avoir, sans doute à partir du IXe siècle, quelques connaissances, mais très sommaires encore, quelques connaissances de cette nouvelle religion. Mais imaginez bien que la totalité des combattants qui sont arrivés en Espagne en 711 et qui vont ensuite, quelques années plus tard, franchir les Pyrénées, ne sont pas tous encore musulmans. Le Maghreb a été conquis difficilement, il y a eu des oppositions, il y a eu des révoltes. Et par conséquent, moi j'aurais tendance à éviter le mot djihad pour évoquer cette période-là, considérant encore une fois que c'est beaucoup plus tard qu'on vient le plaquer sur ces événements-là. Donc en faire une guerre sainte opposant deux civilisations me paraît vraiment très risqué. Pour répondre ensuite à la seconde partie de votre question, Narbonne n'est pas restée complètement, tout comme la région d'ailleurs, la Narbonnaise, le sud de la Narbonnaise en particulier, n'est pas restée à l'écart de la menace, loin de là. Et l'événement qui a parfois été passé un peu sous silence se produit près de 30 ans après la prise de Narbonne, hein, la chute de Narbonne aux mains des Francs en 759. Nous sommes en l'année 793 et c'est l'émir d'Al-Andalus, Omeyyade, lui, Hicham Ier, qui va envoyer des troupes dans cette région-là, qui vont ravager la région de Barcelone, la région de Gérone et puis Narbonne, et mettre en déroute les troupes hein, dans la vallée de l'Aude, les troupes du duc Guillaume. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'on a assisté à une offensive qui a constitué, amassé un butin considérable, hein, que soulignent toutes les sources arabes qui font allusion à cet épisode. Les musulmans regagnent Al-Andalus, regagne Cordoue, mais avec du butin, avec des prisonniers en quantité, dont certains, c'est intéressant de le souligner, vont servir comme mercenaires dans les troupes de l'émir à Cordoue. Ils vont même s'illustrer lors d'une révolte qui va se produire quelques années plus tard, en 818, la grande révolte de Cordoue, ce qu'on appelle la révolte du faubourg. Bon, ils sont une centaine, certaines sources disent 130, d'autres sources disent 150, mais c'est très intéressant, ces gens-là transportés comme prisonniers sont soumis à un entraînement, sont convertis à l'islam, et ce sont des populations narbonnaises qui vont être à Cordoue à ce moment-là.
Oui, et c'est vrai que c'est surprenant, parce que finalement, on est bien après la bataille de Poitiers à ce moment-là.
Et la région, je l'ai dit, reste menacée. Encore à plusieurs reprises, en 841-842, la date n'est pas tout à fait claire. Barcelone a été menacée, Gérone aussi a été menacée plus au nord. Et les troupes par la vallée du Sègre, par la Cerdagne, vont également menacer Narbonne sans s'en emparer. C'est la dernière, véritablement la dernière offensive qui ait pu toucher cette région-là. Elle bénéficie à ce moment-là de la mise en place par Charlemagne, dès le début du IXe siècle, de la fameuse marche hispanique, c'est-à-dire tous ces comtés qu'on appelle aujourd'hui les comtés catalans, qui vont servir en quelque sorte de front, de protection, de barrière entre l'émirat de Cordoue et de l'autre côté l'Empire carolingien.
Et donc si on fait un petit peu un bilan de cette présence, quelles sources nous sont restées de la présence musulmane en Narbonnaise ?
Alors sur le plan mémoriel, assez peu. Moi ça m'a beaucoup étonné parce que je pensais trouver des noms de rues, des souvenirs, des toponymes. Il y en a très très peu, hein, très très peu dans toute la région, depuis la basse vallée du Rhône jusqu'au massif pyrénéen. En revanche, la chance que l'on a eue, et les recherches se poursuivent aujourd'hui, c'est d'avoir conservé un très grand nombre de vestiges matériels, à commencer par des monnaies, quelles qu'elles soient, des petites monnaies de cuivre hein, qu'on appelle les foulous. Il y en a plus d'une centaine aujourd'hui dans les départements des Pyrénées-Orientales et puis le département de l'Aude. Et bien au-delà, on en trouve aussi dans l'Hérault et dans la basse vallée du Rhône, des monnaies de petite valeur sur lesquelles figure la shahada, la ilaha illallah, mais surtout des monnaies d'argent, des dirhams, et des monnaies d'or, en particulier des dinars traditionnels, qui datent de cette époque-là, que l'on a retrouvé donc dans plusieurs endroits de cette région-là. Il y a surtout, j'y faisais allusion tout à l'heure en mentionnant le site de Rusino, et ça c'est quelque chose qui mérite d'être mis en valeur et d'une importance sincèrement majeure, ce sont tous ces seaux de plomb que l'on a retrouvé donc sur le site de Château Roussillon, qui évoque un butin, qui évoque surtout le partage de ce butin, c'est essentiel parmi les conquérants. J'évoquais tout à l'heure les cinq parts, hein, une à l'État et les quatre cinquièmes pour les combattants présents. Et vous imaginez que ces plombs, ces sceaux, sur lesquels sont gravés donc des caractères koufiques hein, en arabe, que ces plombs étaient associés à des objets qui correspondent à un butin sans doute très volumineux. On en a un très très grand nombre et sans doute qu'il y en a bien davantage. Les recherches archéologiques mériteraient d'être poursuivies. S'agit-il de sacs de toile dans lesquels on enfermait un butin? S'agit-il parfois de plomb qui était associé, on peut imaginer, à des caisses, à des coffrets? Et puis il y a encore d'autres éléments importants qui ont été découverts il y a quelques années. Je pense aux travaux de Yves Glaise à Nîmes, par exemple, où on a retrouvé des sépultures musulmanes qui correspondent parfaitement, grâce au radiocarbone 14, qui répondent parfaitement à cette période-là, peut-être même à la reprise de Nîmes par Charles Martel quelques années plus tard, ou au combat qu'a mené Charles Martel dans la région, trois populations qui sont, en plus, c'est très intéressant, vraisemblablement d'origine berbère, d'origine nord-africaine. Il s'agit de combattants, il s'agit d'hommes, et qui sont enterrés selon le rite islamique.
Oui, c'est vrai que c'est passionnant de voir cet apport de l'archéologie, finalement. Et est-ce qu'on a aussi des sources littéraires plus tardivement
Alors, peu d'échos, j'ai dit. Peu de traces mémorielles. Il y a quand même une conscience historique, locale, régionale, qui s'est imposée assez tôt. Je pense à la monumentale histoire générale du Languedoc, hein, des deux pères bénédictins, Dandevic et Bessette, qui a parfaitement relaté cette histoire en se fondant, il est vrai, souvent sur le témoignage de sources latines, mais qui est une œuvre monumentale. Nous sommes dans les années 1730, et qui plus est, l'œuvre est accompagnée d'illustrations. D'autres illustrateurs vont intervenir, mais tout au long du XVIIIe siècle, on commence à voir des interprétations, alors imagées bien évidemment, des gravures, des faits qui se sont déroulés, que ce soit la bataille de Sigean, et surtout la prise de Narbonne, mais la victoire de Toulouse en 721. Et si aujourd'hui on ne célèbre pas, il y a bien eu en 2021, on parlait tout à l'heure de mouvements parfois identitaires. Il y a eu en 2021 à Toulouse une petite manifestation pour célébrer, venant de partis ultra-conservateurs, pour célébrer la victoire de Duc Eudes sur les musulmans. Vous imaginez l'interprétation qui en est faite. Là encore, victoire de la chrétienté sur l'islam. Il y a surtout quelques peintres qui ont retracé ces événements, qui ont essayé de les décrire, mais on n'a rien en dehors des chansons de gestes. Ça, si, toute cette histoire méridionale est utilisée. Très peu l'Espagne, c'est intéressant, dans les chansons de gestes, hein, le cycle de Guillaume d'Orange, par exemple, sont utilisées comme toile de fond, même si l'apport historique de ces chansons de gestes, hein, de cette littérature épique, est généralement très limité par rapport aux faits historiques. Le plus célèbre que tous les touristes qui vont dans le Midi connaissent lorsqu'ils se rendent à Carcassonne, c'est sans doute l'épisode de Dame Carcasse, qui aurait donné son nom à la ville. Dame Carcasse sonne suite au départ des troupes chrétiennes qui avaient assiégé la ville.
Et alors, que dire de la place de Narbonne et de Toulouse en comparaison à celle de Poitiers dans l'historiographie actuelle?
Alors, l'une et l'autre sont indiscutablement réduite, peu célébrée par rapport à la bataille de Poitiers. Je me suis beaucoup intéressé à cette question. Certains de mes collègues avaient parlé d'une fraude, dans la mesure où c'était un problème de communiqué, en quelque sorte, de presse. On a toujours valorisé Poitiers par rapport à ces événements-là. Encore une fois, Paris, où s'élabore ce que certains appellent le roman national, mais où sont rédigés la plupart du temps les manuels de la Troisième République, les manuels scolaires, hein, de l'école primaire, qui célèbrent beaucoup la bataille de Poitiers, ne disent pas un mot de ce qui s'est passé à Toulouse en 721, et ne disent pas non plus un mot de la prise de Narbonne, de la chute de Narbonne, quelques années plus tard, en 759. C'est étonnant, je disais tout à l'heure que ce Midi, à cette époque-là, nous sommes dans les années 1890, 1900, 1905, est un Midi qui est souvent un petit peu agité par rapport à, mettez le terme entre guillemets, l'autorité parisienne. Mais il est vrai que l'essor, l'écho de la bataille de Poitiers dans ses manuels scolaires a fini petit à petit par complètement évacuer ces deux événements qui sont considérés comme secondaires. Et je serais curieux de savoir aujourd'hui, si vous faisiez un interview dans la rue auprès de passants, s'ils sauraient de quoi est-ce qu'il s'agit en 721, s'ils savent ce qu'est 759, alors que la date de Poitiers est connue depuis des générations par cœur parfaitement, au même titre que Marignan ou d'autres batailles ou Waterloo. Et ce qui fait que ça nous invite aussi à avoir une réflexion sur le statut, non pas de la date, mais de l'événementiel dans le récit historique. Et pourquoi ce choix ? Parce qu'il y a aussi des raisons qui, à l'époque, sont également très intéressantes du point de vue politique, qui peuvent être récupérées, vous le voyez, très tôt récupérées. C'est le fait que cette victoire de Poitiers, en 732, l'est célébrée, comme dans les manuels scolaires, mais très tôt. Elle est célébrée comme la capacité qu'a le peuple franc, entendez, le peuple français, à vaincre tout ennemi venu de l'extérieur. Et vous imaginez que après les événements de 1870-1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine à ce moment-là, vous imaginez que face à la Prusse et face aux Allemands, la bataille de Poitiers a pu servir d'argument politique. Et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles elle a connu un tel succès.
Bien, Philippe Sénac, merci d'être venu au micro de Storia Voce.
Merci beaucoup à vous.
Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.